Henri de Régnier, La double maîtresse, première partie, chapitre 4. Les années du séjour de l'abbé Hubertet à Pontaubel ne furent point perdues pour Nicolas de Galando. Si sa nature ne changea point quant au fond, son esprit s'orna d'une surface de connaissances agréables. Il apprit même à raisonner assez bien de ce qu'il savait et à soutenir à peu près un entretien. Il acquit un peu de grec et beaucoup de latin, une teinture d'histoire. L'abbé se félicitait d'avoir tiré pour le mieux parti de cette nature et d'y avoir donné les embellissements qu'elle comportait sans en détruire la proportion. Madame de Galando craignait au début quelque entreprise qui cherchât à soustraire son fils à l'autorité directe qu'elle prétendait garder sur lui. Elle se rassura peu à peu à voir l'abbé Hubertet agir avec modération, si bien qu'elle lui en sut gré et lui montra, en le traitant avec déménagement et une estime particulière. Elle lui tenait compte d'avoir deviné ses intentions et, en entrant dans ses vues, d'avoir contribué à son projet. La vérité sur Madame de Galando est qu'elle aimait jalousement son fils et au point de le vouloir tout conserver pour elle. Aussi se l'était-elle assujettie, non seulement par les liens de l'affection, mais encore par le nœud solide d'une durable captivité filiale. Elle se croyait, à vrai dire, seule appelée à le rendre heureux, sans admettre un instant qu'il pût l'être quelque part en dehors d'elle. La pensée qu'il la quitterait jamais lui était insupportable. Qu'aurait-il besoin, par exemple, de prendre du service ou de faire valoir à la cour ceux de ses ancêtres? Et tout au fond d'elle-même, l'idée qu'un jour il se mariât lui répugnait presque également. L'abbé Hubertet abordait parfois ce sujet avec Madame de Galando, et même, à mesure que Nicolas prenait de l'âge, il y insistait plus souvent. Il recommandait à la mère ce moyen de garder son fils à sa portée, de le fixer à Pontaubel, lui représentant que l'oisiveté du cœur est nuisible et que l'amour d'une mère, si grand qu'il fût, ne remplaçait point l'amour d'une femme, si changeant qu'il pût être. Que Nicolas touchait à ses 22 ans et qu'il conviendrait de le pourvoir. L'abbé mettait quelque malice à passer en revue les demoiselles qui pourraient convenir à Nicolas. Madame de Galando, si retenue d'ordinaire, perdait alors toute mesure. Quelquefois, elle rembarrait durement ou avec sécheresse de sermonneur, mais le plus souvent, son irritation se prenait au piège et sa bile valait à l'abbé des portraits où la charité chrétienne, mise de côté, laissait place à la verve la plus caustique. Elle se donnait carrière avec une âcreté inimaginable, déchirant même qui elle ne connaissait pas, oubliant que depuis plus de 15 ans, elle n'avait presque mis le pied hors de Pontaubel et qu'elle parlait de filles qu'elle n'avait jamais vues, mais dont elle inventait des travers supposés. Il en ressortait pour l'abbé que Madame de Galando était envenimée contre les personnes de son sexe d'une méfiance et d'une haine surprenantes, autant que pour les hommes du plus hargneux mépris. Une fois qu'elle était allée à la ville pour affaire, voir l'évêque, elle rencontra chez lui Mademoiselle de Pintel et son père. Ils habitaient les Meutes qui leur venaient de l'héritage de M. d'Estanses, leurs parents. Mademoiselle de Pintel était belle et jolie, 18 ans, riche et gracieuse. L'abbé Hubertet, qui accompagnait Madame de Galando, comme la voiture reprenait, au trot de son vieux cheval, le chemin de Pontaubel, lui fit l'une de ses ouvertures habituelles, lui représentant les agréments de cette jeune fille, le cas à faire d'une aussi estimable alliance, et tant de convenances diverses et assorties. Madame de Galando ne répondait guère. Quand tout à coup, elle éclata. Tenez, l'abbé ! Et elle lui frappa le genou du revers de sa main osseuse. « Mon fils ne se mariera point. Maintenant du moins, » ajouta-t-elle pour corriger l'effet de ses paroles. « Non, l'abbé, point de mariage, ni cette Pintel, ni une autre pour le moment. » L'abbé s'inclina à la brusquerie de la déclaration. « Grâce à mes soins, » continua Madame de Galando, « mon fils ignore encore les femmes et presque jusqu'à leur vue. J'entends celles qui pourraient attirer ses regards, encore que le goût des hommes soit si bas et si monstrueux que la plus misérable souillon, la plus crasseuse bergère, la plus laide gaupe, puissent tout de même éveiller leur désir, et ce qui le justifie le moins n'est pas ce qui le rend moins violent. » Cela fut dit avec une sorte d'amertume rancunière. L'abbé se taisait. Madame de Galando reprit. « Nicolas est pur. Ses sens dorment. Comprenez-moi, monsieur l'abbé. Il ne verra dans celle qui les éveillera que le moyen de les satisfaire. Aussi ne veux-je point voir se lier ainsi deux êtres par la seule nouveauté réciproque qu'ils se seront l'un à l'autre. Leur jeunesse se perdront à cet attrait sensuel qui risquera de périr avec leur âge mûr et ne leur laissera que le regret d'un lien que la seule passion aura formé et que la raison n'approuvera peut-être plus. Et quoi ? Ai-je préservé mon fils des dangers extérieurs de cette sorte pour lui en fournir le péril sous mon toit même ? Non, non, l'abbé. Je veux pour notre Nicolas un mariage fondé sur une sage estime, sur l'amitié des cœurs et l'entente des sentiments. Cette petite pintelle est sans doute délicate et sage, j'y consens, mais elle est trop belle. Ma bru ne le sera point. Et pour tout vous dire, j'aimerais mieux encore, si ces circonstances de raison ne se présentent point, que l'union de mon fils ne reposât que sur un édifice de convenance et d'intérêt. Le bonheur se peut mieux trouver dans les rapports de la fortune et de l'humeur que dans un vertige des sens qui n'engendrerait à sa suite que troubles et que maux. Non, mon fils ne se mariera point par caprice. Certes, je l'ai prémuni contre les erreurs et les entraînements du corps, mais son jeune âge l'y rend encore trop sujet pour que j'en hasarde le dé. Plus tard, oui, plus tard, quand la raison occupera dans son esprit la place que j'y ai préparée par la religion et la vertu. Il pourra choisir, avec mon aide, la compagne de sa vie, qui, maintenant, ne saurait être que l'instrument de ses plaisirs. Il n'obéira plus alors dans son choix à l'ardeur du sang et à l'intempérance du désir. Mais, en attendant, mon cher abbé, je ne veux pas consentir que le couvert et la garantie d'un sacrement servent à protéger les excès de la nature, ni faire de l'Église un prétexte à de toute charnelle convoitise. Elle se tut et regarda par la portière. La voiture tournait à une croix de route. On apercevait de longs champs de blé qui se doraient jusqu'à une sorte de lande inculte, au bout de laquelle, derrière un bois, on distinguait les pointes aiguës des tourelles de Bas-le-Pré. L'abbé se sentit battu une fois de plus. Il eut bien l'idée de faire intervenir l'évêque et de faire à Madame de Galando un cas de conscience de son entêtement. Mais il se dit que tout cela servirait peu, car il se flattait d'avoir sur elle toute l'influence qu'on pouvait avoir et que personne ne réussirait mieux que lui où il venait d'échouer. D'autant que Nicolas ne semblait aucunement désirer quoi que ce fût et qu'il paraissait parfaitement heureux. Et l'abbé se demandait après tout ce que pourrait bien faire d'une femme ce grand Benet qui avait employé hier plus de 3 heures, avec un contentement visible, à produire des ronds et des ricochets dans un bassin en y lançant des pierres et des cailloux plats. Ne valait-il pas mieux, en somme, user des bonnes grâces de Madame de Galando pour obtenir quelque achat de livres qui manquait à la bibliothèque et se ménager auprès d'elle? Ce en quoi il fit bien, car un événement ne tarda pas à survenir, où tout son pouvoir ne fut point de trop pour la décider à en accepter les suites.